pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi, bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix. Dans cette nouvelle émission, nous allons donc parler de la radio. Comment fonctionne la radio que vous êtes en train d'écouter? Quelles sont les réglementations en vigueur? Et quelle est son histoire en Normandie? Nos invités du jour pour en discuter sont Michel Vernouillet, ancien attaché technique audiovisuel de l'antenne locale du Conseil supérieur de l'audiovisuel de Caen, et Fabien Cuny, ingénieur d'études en informatique et auto-entrepreneur en développement software lié à la radio. Mais tout de suite, notre flash avec les infos sciences de la semaine. Les Jeux Olympiques d'hiver 2022 seront-ils les moins écologiques de l'histoire? Cette année, cette compétition sportive incontournable a lieu en Chine, où elle s'est ouverte à Pékin vendredi dernier, non sans de nombreuses polémiques géopolitiques et diplomatiques. Parmi ces polémiques, l'écologie. Le comité d'organisation de Pékin 2022 l'avait annoncé. Ces Jeux seront respectueux de l'environnement, fédérateur, ouvert et propre. Pour preuve, de nombreuses infrastructures des JO de 2008 ont été réutilisées et les cubes de glace pour le curling proviennent par exemple de l'eau des piscines de natation. Greenwashing, répondent les militants écologistes qui mettent en lumière d'autres initiatives peu vertueuses lors de ces JO. Tout d'abord, la région dite des sites olympiques est connue pour sa sécheresse hivernale, ce qui a donc poussé les organisateurs à utiliser 185 millions de litres d'eau pour produire de la neige artificielle. Autre acte non écologique, le domaine skiable n'est pas naturel. 20 000 arbres ont été abattus. C'est donc un malaise éco-anxieux qui règne dans ce début de compétition, loin d'une euphorie généralisée. Selon un rapport publié par des chercheurs de l'université anglaise, cette compétition et les sports d'hiver en général seraient menacés à terme par le réchauffement climatique. Dès demain, l'état de santé de l'océan sera discuté en Bretagne. Du 9 au 11 février, le One Ocean Summit accueillera à Brest de nombreux acteurs professionnels, politiques et associatifs en lien avec les océans. Organisé par le gouvernement français, le sommet international sur l'océan arrive dans un contexte favorable car de nombreuses polémiques écologiques sont en question. L'arrêt du plastique sera débattu par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui aura lieu au Kenya. Des délibérations sur la biodiversité se tiendront au siège des Nations Unies à New York en mars. Et enfin, nous retrouverons aussi le sommet de l'ONU sur les océans en juin à Lisbonne. Actuellement, nous rejetons à la mer 11 millions de tonnes de plastique par an. Une partie infime de ces déchets vient s'échouer sur nos plages, tandis que la plupart des parties coulent avant de se déposer sur les fonds marins. 5 milliards de particules plastiques flottent dans nos océans, et ce qui n'est qu'un aspect de la pollution marine. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron souhaite donner à ce sommet une envergure internationale, mais aussi européenne, à l'heure où le président entame la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La mer est un enjeu stratégique pour l'Europe. Le One Ocean Summit ne s'adresse qu'aux États, mais aussi aux industriels et aux citoyens. À Caen, une navette électrique autonome vise les Jeux Olympiques 2024. L'embarcation est développée par la start-up cannaise NEAC Industries et a pour particularité de fonctionner en pleine autonomie, de manière électrique et avec un système de reconnaissance de son environnement. Pouvant fonctionner dans un canal, ces bateaux fluviaux sont actuellement en essai dans le canal de Caen-la-Mer autour de la Presqu'île. Avec cette navette fluviale, les fondateurs souhaitent créer un bateau autonome, intelligent et décarboné. L'objectif étant qu'une flotte soit opérationnelle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et ainsi intégrer l'offre de transport public.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Ce dimanche 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. L'année dernière, nous fêtions les 100 ans de la première émission en France, mais aussi les 40 ans de la libération des ondes. Par ailleurs, la radio que nous faisons là, en ce moment, n'est pas la même que celle que nous ferons demain. Pourtant, aujourd'hui, 40,8 millions de Français écoutent toujours la radio, selon Médiamétrie. Alors, à quelques jours de cette date de célébration du deuxième grand média de masse, après la presse, avant la télé et avant Internet, nous décidons de comprendre le fonctionnement de la radio avec deux invités en studio, deux passionnés de radio. Michel Vernouillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien attaché technique audiovisuel de l'antenne locale de l'ARCOM, anciennement le CSA de Caen. Et Fabien Cuny, bonjour. bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur d'études en informatique et auto-entrepreneur en développement software lié à la radio. Alors tout d'abord, Michel, vous avez travaillé pendant 30 ans avec le CSA de Caen et vous avez notamment contribué à développer la bande FM en Normandie. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de vos missions avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ?
Bien sûr, je suis là pour ça. Moi, vous disiez 30 ans au CSA, mais j'ai commencé ce métier il y a maintenant 45 ans. Je l'en ai fait pratiquer pendant 42 ans dans un service qui s'appelait Protection de la réception. Et j'étais tout jeune, je suis rentré avec un bagage, je dirais, électronique qui m'a permis de pratiquer et de voir se développer les radios. Quand j'ai commencé, la télévision était en noir et blanc, la FM, il y avait trois fréquences, inter, musique, culture, il n'y avait pas de radio locale. Et en 1980, le gouvernement a commencé à décider que les radios locales devaient exister, libérer la bande FM, la libération de la bande FM. Donc il y a eu la Haute Autorité, la SNCL, puis le CSA. Donc dès 91, moi je suis arrivé ici. Et j'ai travaillé avant 91 sur les pirates et en 91 sur tout ce qui devenait autorisé réellement. Donc toutes les radios qui aujourd'hui existent, au départ 200 fréquences sur les 8 départements, aujourd'hui plus de 450. Voilà.
Et alors Fabien Cuny, vous développez vous des logiciels de software liés aux applications radiophoniques. En quoi consiste ce travail de développeur ?
Alors le travail de développeur, donc déjà d'une part c'est mon métier, hein, c'est ce qui m'anime aussi tous les jours dans ma profession. Et puis plus spécifiquement là, avec l'arrivée du DAB+, donc on va y revenir tout à l'heure si j'ai bien compris. On a possibilité de pouvoir transmettre aussi du contenu additionnel, que ce soit du texte ou des images. Et donc le logiciel que j'ai développé permet justement de faire ça et de rendre ça accessible aux petites radios comme grandes radios.
On va revenir justement sur le DAB+, ouais. Après, vous l'avez dit. Et Michel, comment s'est dessiné le paysage radio en France ? Est-ce qu'il y a eu une émergence à une certaine période de l'histoire de la radio ?
Alors, la radio, ça fait longtemps que ça existe, hein, on le disait. Pendant très longtemps, il y a eu un monopole d'État où les radios étaient, en France en tout cas, uniquement diffusées par l'État. On a vu dans les années 50-60 émerger des radios périphériques, RTL, Europe, Sud Radio, enfin, ça s'appelait RMC à l'époque, qui émettaient depuis l'extraterritorial, hein, de Benelux ou depuis Monaco. Et puis, la bande FM s'est libérée en 80, et là, on a vu une explosion de radios, moi j'aime bien les rappeler, locales privées, ce qu'on appelait les RLP, c'était la radio libre, hein, c'était les premières radios libres, et où là, tout le monde s'est jeté dessus, les étudiants, et puis d'un seul coup, ces radios qui étaient une ouverture sur le monde de la communication, je vais pas dire se sont fermées, mais en tout cas, certains ont trouvé qu'on pouvait faire de l'argent et sont devenus commerciales. Donc, dans les années 80, automatiquement, la législation a évolué et on est passé de radios libres à des radios associatives en catégorie A, des radios catégorie B qui étaient des commerciales locales, puis des catégories C qui avaient un programme national mais qui étaient en local, les radios nationales, type énergie, nostalgie, qu'on connaît toutes au niveau national, et les généralistes, les catégories E qui sont RTL, Europe 1, RMC aujourd'hui. Et cette évolution, elle s'est faite, je vais dire, sur une dizaine d'années. Et il a fallu autoriser, en fonction des fréquences disponibles, les radios. Donc les CTA et le CSA ont construit des paysages radiophoniques dans chaque région, en fonction de la disponibilité des fréquences que l'on avait. Et au départ, 220 fréquences, si je me rappelle bien, en 90... parce que le matériel ne permettait pas qu'on en mette plus à l'époque. La technique a évolué, et aujourd'hui, si on peut mettre beaucoup plus de radios, c'est parce que les matériels, et de diffusion, mais aussi de réception, et surtout de réception, les récepteurs qui sont chez chaque auditeur, ont évolué. Et c'est ce qui a permis que cette évolution se fasse, et qu'aujourd'hui, on reçoit de plus en plus de radios, par la voie hertzienne en tout cas.
Et alors, en termes d'histoire, est-ce que la Normandie, elle a une relation particulière avec la radio ? Ou comment s'est dessiné son paysage radiophonique à la Normandie ?
Alors, la Normandie, les premières radios qui ont existé en Normandie, c'est juste après avant la guerre, il y avait déjà des radios. Mais celle-là, c'était en grande onde, c'était pas en modulation de fréquence. Bon, juste après la guerre, il y a eu les radios de la Libération, Les premières étaient à Cherbourg, et il en est resté une spécificité à Cherbourg, puisque le service public dans les années 70 avait automatiquement Radio Cherbourg qui continuait à exister pendant une demi-heure tous les midis. Voilà, donc sur le service public. Quand il y a eu la libération des radios, il y a des radios qui sont nées dans l'ensemble du CTA de l'époque, avec 8 régions, enfin nous avions 8 départements. J'ai connu des radios ici qui existent encore aujourd'hui, toutes, 666, TSF, c'est des radios de l'époque. Et elles ont évolué par la suite, parce qu'il y en a qui ont voulu quitter le monde associatif et se transformer en commercial. Radio Viking, j'ai encore de Vésuve, qui a entendu parler de Radio Vesuvio quand Mario était à la Pierreuse ici. Donc, vraiment des quantités énormes de radios. Aujourd'hui, on dira qu'il y a moins de choix, peut-être, puisque les réseaux nationaux ont pris la place de radios locales. Mais c'est la nature des choses d'arriver à avoir le paysage qu'on a aujourd'hui. Automatiquement, des radios ont disparu. On parlait tout à l'heure de pirates. À l'époque, il y avait énormément de pirates. Il a fallu en courir après, les supprimer, les faire disparaître. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi qui gère la radio aujourd'hui, elle s'appelle liberté de communication. Et on oublie de dire que c'est la liberté, mais elle n'est pas libre, la radio. Elle est organisée. C'est une loi qui permet d'organiser la liberté de communication.
Et alors, Fabien, est-ce que la démocratisation de la radio, par exemple dans les années 80 ou 70, ça vient du fait que c'est une technologie simple à reproduire, d'avoir un émetteur, un appareil radio?
Ah bah, je dirais que la FM, oui, enfin, c'est devenu, on trouve maintenant même des transmetteurs FM si on veut émettre des MP3 dans sa voiture, donc ça s'est réellement généralisé, et ça fait partie de la FM, ça reste assez simple à moduler. Avec les avancées électroniques maintenant, on arrive à miniaturiser tout ce qui est récepteur et émetteur, donc ça devient vraiment à la portée de tout le monde. On trouve même des kits même de réception si on veut s'amuser à souder, et sortir son fer à souder et puis avoir des composants électroniques, si on veut faire ça, il n'y a pas de problème, au contraire.
Donc c'est-à-dire que c'est une technologie qui est accessible à tous, oui, mais avec laquelle il faut respecter certaines règles de diffusion.
Exactement, faut pas compter émettre très loin et jusqu'au sud de la France. Hein, c'est...
les règles de diffusion sont intéressantes. Il faut rappeler que pour pouvoir émettre en France, il faut avoir une autorisation.
En plus, oui.
Et que sans autorisation, on devient pirate. Il y a encore des pirates aujourd'hui. Hein, de temps en temps, il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas un jeu, que c'est quelque chose qui est autorisé. Mais une fois qu'on a demandé l'autorisation, oui, on peut trouver des autorisations. Le seul problématique qui existe, c'est le nombre de fréquences. C'est le nombre de fréquences qui sont disponibles dans chaque lieu. À Paris, il y a 45 ou 50 fréquences possibles. À Caen, de mémoire, comme ça, il doit y en avoir 17.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et au Havre, il y en a 19. Et à Rouen, il y en a 17 ou 18 aussi. Donc, c'est le manque de fréquences qui limite le nombre de radios et la possibilité d'autoriser. Le CSA trouve parfois des possibilités. Ça a été le cas pour Radio Phoenix. Radio Phoenix a débuté par être une radio temporaire. C'est-à-dire qu'il y avait des événements auxquels on donnait pour 15 jours, 3 semaines, une fréquence autorisée, sans garantie de non-brouillage. On savait qu'elle ne brouillerait pas les autres, mais il ne fallait pas que les gens puissent être... Voilà. Donc ça fait avancer les choses, mais il faut savoir qu'il faut une autorisation et il faut, oui, passer par le CSA, faire une demande de dossier, et ça fonctionne.
On reviendra sur les autorisations du, okay, CSA en deuxième partie, mais je voulais savoir, Fabien, quand on parle de fréquence radio, mais qu'est-ce qu'une fréquence radio ?
Une fréquence, c'est une ressource dans un spectre audio. Il faut savoir qu'en France, enfin même dans la plupart des régions du monde, on va exclure le Japon qui utilise une autre bande, mais c'est 87,5 MHz à 108. Donc comme on le disait, hein, ça laisse pas non plus énormément de place, surtout quand on est dans une ville et qu'on capte aussi les autres fréquences d'autres villes. Par exemple, si on capte très bien les stations du Havre, de Lisieux, d'Argentan, peut-être à moins de périmètre. Donc du coup, ça laisse aussi des fréquences disponibles en moins. Et maintenant, les technologies ont fait que on a des meilleures antennes d'émission, avec des diagrammes peut-être d'émission un peu plus resserrés sur une zone. Voilà, ça fait partie des choses qui ont évolué. La technologie aussi au niveau des émetteurs, ça a beaucoup évolué, notamment en consommation d'énergie, on va dire en rendement, ça c'est des choses qu'ont beaucoup évolué. Après, pour revenir à la question du spectre, oui, voilà, ça occupe une place dans le spectre. Il faut respecter non plus, pas brouiller ses voisins, c'est sûr. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des règles pour ça, et le CSA, maintenant l'ARCOM, est là pour justement surveiller tout ça.
Et alors, Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment d'un son qu'on émet avec notre bouche, on arrive à un son qui arrive dans nos oreilles ? Très rapidement, en vulgarisant.
Grande question.
Ah, c'est oui, mais ça peut être relativement simple. Hein. Un son, c'est quoi ? C'est une vibration de l'air.
Oui.
On est d'accord, c'est uniquement une vibration de l'air. Tout le monde sait comment fonctionne un haut-parleur. Oui. On voit bien
la membrane
qui vibre et qui recrée un mouvement de l'air. Le micro, il fonctionne dans l'autre sens. Quand on parle dans un micro, le micro, il a une membrane qui vibre et qui transmet cette vibration de l'air en un signal électrique. Mmh. Ce signal électrique, il s'en va dans les fields, il va à votre table de mixage, vous pouvez le traiter, faire une compression, mettre des échos, des réverbérations, changer les réglages et tout. Et derrière, on attaque un émetteur. Mmh. On l'attaque en ligne directe quand c'est comme vous avez votre antenne sur le bâtiment. Si l'émetteur est à 5 km parce qu'il est diffusé par un grand diffuseur, eh ben, il passe par une ligne internet ou il passe par un faisceau qui permet d'alimenter. Une fois que ça arrive à l'émetteur, signal électrique, il faut en faire quelque chose, on le transforme en radiofréquence. Et la radiofréquence, dans la bande FM, on dit voilà, sur telle fréquence, on va mettre un signal. Ce signal, il est émis dans l'air et quand il arrive sur le récepteur de radio, dans la cuisine de monsieur X ou madame Y, le récepteur, il prend ce signal à radiofréquence, il le retransforme en signal électrique, et le haut-parleur du poste retransforme en un signal qu'on peut entendre parce qu'il fait vibrer l'air et ça arrive jusqu'à nos oreilles. Voilà.
Et alors, avant d'émettre un son, avant qu'il arrive dans un poste de radio, il faut l'enregistrer puis l'émettre. Comme vous venez de l'expliquer, il existe plusieurs façons aussi d'émettre des signaux radio. On a la bande FM, donc modulation de fréquence, ou la bande AM, modulation d'amplitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces dernières ?
Souvent, le nom même des deux serve. Modulation de fréquence, on voit que c'est un signal qui est modulé en fréquence. C'est-à-dire qu'on vous donne une fréquence et autour de cette fréquence, votre signal va être modulé. Pas plus de 75 kHz, voilà. C'est la réglementation. Et on fait varier la fréquence pour qu'on puisse récupérer le signal à l'autre bout. En modulation d'amplitude, on a une fréquence et c'est l'amplitude du signal que l'on récupère pour redonner le signal radioélectrique du départ. C'est la seule différence. La vraie différence des deux, c'est que la modulation d'amplitude peut aller très loin, parce qu'on est en général dans des bandes grandes ondes, elle n'est pas diffusée dans les mêmes bandes que la FM. Mmh. Et les bandes grandes ondes, bah, les émetteurs, on peut les entendre à 4, 5, 600 km, alors que la FM, en général, au-delà de 40 km, pour les très grands sites avec des très grosses puissances, on dira 80 km, mais voilà. Et la deuxième différence entre les deux, c'est que la modulation d'amplitude est très perturbée par les perturbations radioélectriques, les parasites, ce qu'on appelle des parasites, alors que la FM est très rarement perturbée par les... Mais ça tient juste au système de modulation.
Et puis surtout, ça va plus loin parce qu'on est beaucoup plus bas en fréquence aussi.
Et alors Fabien, qu'est-ce que c'est qu'un parasite ? On vient de l'évoquer, un parasite, un bruit parasite qui pourrait arriver sur notre fréquence FM.
Bah, un parasite, ça peut être par exemple une harmonique. Admettons, prenons, je ne sais pas, l'exemple d'un transformateur d'alimentation, par exemple, de votre, je sais pas, d'une lampe de chevet. Cette alimentation va rayonner aussi ce qu'on appelle des harmoniques, on va dire, des fréquences autour, je sais pas, du périmètre. Et ces harmoniques peuvent arriver sur une bande de radio. Donc, typiquement, par exemple, ça peut être l'AM, ça peut être par exemple la FM, ça peut être du numérique aussi, ça peut être n'importe quoi, et peut venir perturber la réception, voire la dégrader.
Donc c'est les petits grésillements qu'on peut entendre dans notre radio.
Par exemple, ça en fait partie.
Les parasites, il y en a des quantités.
Il y en a partout.
Il y a les moteurs. Les moteurs, on a tous en mémoire, en tout cas quand on a mon âge, des tondeuses à gazon, des clôtures électriques, de la perceuse du voisin qui crée des perturbations. La chaudière, le thermostat, tout ce qui est contact. Dès qu'on a un contact, automatiquement, comme dans un moteur, automatiquement, ça crée des impulsions électriques, des amorçages, voilà, les lignes EDF. Mais par contre, on les ressent très peu en modulation de fréquence, puisque, sans faire de technique, mais le parasite, il vient s'ajouter sur l'amplitude et non pas sur la fréquence. pour que ça perturbe la fréquence, en modulation de fréquence, il faut que le parasite soit très très violent puisqu'il prend la place de la modulation. Quoi. Mmh. Voilà. Mais en modulation de fréquence, ce qui est plus perturbant, en tout cas dans la bande FM, c'est que c'est les émetteurs qui se perturbent les uns les autres. C'est pour ça que dans les années 90, il a fallu expliquer aux radios que si le CSA donnait des puissances dites à 1 kW ou à 2 kW ou à 500 watts, c'est qu'il y avait des raisons. Ce n'était pas pour faire joli, c'était parce que si on se met à un endroit X, il faut qu'à l'endroit Y, on ne le reçoive plus pour qu'on puisse réutiliser cette fréquence-là. Et si les gens montent la puissance, automatiquement, dès qu'on montait les puissances, bah, tout le monde se perturbe. Et quand on monte les puissances, le moindre peu qu'on augmente la puissance, automatiquement, on augmente la perturbation dans un niveau qui n'est pas égal. Ça ne va pas dans le même sens. On va au double. Dès qu'on augmente de 6 dB, c'est 12 dB de perturbation supplémentaire.
Et alors, avant la pause musicale, Michel, est-ce que vous pouvez nous dire comment est caractérisé le paysage radiophonique en France en comparaison à ses voisins ? Fabien nous évoquait le cas du Japon, qui n'a pas la même fréquence d'émission que la France. Et alors, quel est le paysage français ? Comment il est comparé à ses voisins ?
Alors, si on reste en Europe, tout le monde utilise la bande FM.
Oui, ah ouais. C'est 87.508.
Voilà. Ça, c'est sûr. La seule différence, c'est au niveau de l'autorisation. Quand le CSA a été créé, on a dit, on ne fera pas comme en Italie, où en Italie, il suffisait de dire, je choisis une fréquence, je la déclare, et automatiquement, après, on l'autorise. Ce qui fait, quand vous promeniez en Italie dans les années 80, dans les grandes villes, vous passiez d'un pâté de maison à l'autre pâté de maison, vous changez de radio en permanence, quoi. En France, on a dit, on fera différemment et on essaiera que les fréquences soient bien choisies, bien posées. Ça a d'ailleurs été un des premiers travaux que j'ai eu à faire en 90, c'est d'expliquer aux gens qu'il fallait qu'ils se mettent bien sur la bonne fréquence, qu'ils se mettent bien au bon endroit, et puis par la suite, qu'ils utilisent la bonne puissance, ouais. Voilà, et ainsi de suite. Donc, et après, les conditions de diffusion. Mais voilà, la différence, elle est au niveau de l'autorisation. Les Anglais autorisent à peu près comme la France... Les Allemands, c'est encore plus sévère que chez nous, mais ce n'est que les problèmes d'autorisation qui changent, puisque tout le monde utilise la bande FM, en sachant en plus que, comme tout le monde l'utilise, il y a les zones frontalières où il faut que tout le monde arrive à garder, je vais dire, ses radios chez soi. Hein, c'est le cas en Normandie, on est frontalier avec l'Angleterre, et toutes les radios qui sont diffusées sur la côte normande n'ont pas le droit d'émettre vers l'Angleterre. Il y a automatiquement des restrictions de puissance.
Et alors, Fabien, dans vos travaux d'ingénieur et de développement de software lié à la radio, est-ce que vous devez tenir compte de ces législations de fréquence d'émission ?
Alors moi, de mon côté, au niveau développement software, moi, ça va beaucoup moins loin que ça. Avant ça, il y a quand même toute la phase, alors là, qui est gérée par des prestataires de diffusion. Hein, c'est la négociation aussi avec des autorités comme l'ARCOM, c'est des négociations aussi avec ce qu'on appelle la coordination internationale, hein, avec les, bah, par exemple, frontalier avec l'Angleterre ici, mais par exemple, dans le Rhône-Alpes, c'est frontalier avec la Suisse, l'Italie. Et dans le Sud, on est frontalier aussi avec l'Espagne. Donc, c'est pas, voilà, c'est des négociations qui se font, bah voilà, là, c'est vraiment au niveau du plan de fréquence. Donc, ça, c'est au niveau ARCOM. Maintenant, voilà, c'est pareil, c'est comme en FM. On a aussi des autorisations sur des sites d'émission. Il y a des puissances à respecter, des contraintes qu'on appelle de diffusion aussi à respecter. C'est-à-dire qu'on doit émettre dans une zone mais pas dans une autre, voilà, ça, après ça fait partie du choix d'antenne, etc. Ça, moi, pour l'instant, ça, c'est beaucoup plus haut que moi.
Eh bien, merci, on va marquer une courte pause musicale avec Tango de Futur Epelo sur Radio Phoenix.
Tears and no need for fear. Just move your feet. Just feel the beat till you feel free and free. let you go and kick your shoes. Let the feeling rise till it hit the sky. Get down and find out who you are, where you at. Get down and find out who you are, where you at.
Venez d'écouter Futuropelo Tango sur Radio Phoenix, vous êtes toujours dans C'est pas faux. Avant la pause musicale, nous parlions de la spécificité du paysage radiophonique français et de la technique de la radio. Dans cette seconde partie, nous allons nous pencher un peu plus sur la régulation de la radio et son avenir. Michel, comment les fréquences sont-elles attribuées aux radios ? Est-ce que c'est le CSA qui le choisit ou est-ce que c'est l'État ou les personnes qui peuvent demander directement une fréquence quand elles se libèrent ?
Quand elle se libère.
Il y a plusieurs cas là.
Alors, si on parle de la FM, dans un premier temps, si on parle de la FM, c'est toujours sur appel à candidature quand il y a des fréquences disponibles. Les radios sont autorisées pour 5 ans, renouvelables 2 fois. Donc, appel général au bout de 15 ans, hop, toutes les fréquences sont remises à plat et au dossier de candidature, les gens postulent et le CSA décide de qui a le droit de reprendre. Il est évident que si les radios ont été correctes pendant tout le temps, qu'elles ont respecté leur autorisation et qu'il n'y a pas eu de problème, elles sont de nouveau autorisées. Et dans le cadre des appels généraux, le CSA regarde de nouveau s'il y a des fréquences qu'on peut utiliser en plus dans les fréquences. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même très limité. C'est aussi pour ça que le CSA a décidé qu'il y aurait le DAB+, qui permettra de multiplier le nombre de fréquences. Dans le cadre du DAB, de la même manière, il y a appel à candidature, mais l'appel à candidature est un peu différent de la FM, où en FM, les gens postulent individuellement pour une fréquence. Dans le cas du DAB+, automatiquement, la technologie du DAB fait que sur une même fréquence est diffusé un MUX, ce qu'on appelle un multiplex de radio. Il y a plusieurs radios qui sont sur un seul multiplex, donc il faut que ces gens se réunissent et le CSA autorise non plus chaque radio, le CSA autorise chaque radio à faire partie du multiplex. Et il autorise après chaque multiplex dans chaque fréquence.
Et ça, c'est déjà actuel, l'autorisation du multiplex.
Oui, c'est déjà en cours. À quand c'est prévu pour le mois de septembre, si je crois,
septembre.
Le démarrage en septembre. Voilà.
Et alors, en première partie de l'émission, vous l'avez évoqué, il y a différentes catégories de radios qui sont définies par le CSA, les catégories A, B, C. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ah, ce sont les radios associatives. Associatives, donc on dira en général locales. Qui sont des radios qui fonctionnent sans, tout au moins, je ne vais pas dire sans ressources financières, mais ils ont des ressources financières qui ne doivent pas dépasser 20% de leur fonctionnement. Ils ont droit à un petit peu de pub, 20%, et le reste est fourni par le fonds de soutien radiophonique, le FSR, qui existe depuis le départ. Mais il faut savoir que ce gâteau, il existe, mais plus il y a d'associatives, moins plus les parts sont petites. Donc il faut y faire attention. Ça, c'est les radios associatives, donc locales. Les catégories B, c'est les radios commerciales locales. C'est des radios qui existent sur quelques fréquences, plusieurs fréquences, quelques départements. Ils ne peuvent pas dépasser plus de 6 millions d'auditeurs potentiels. Les catégories C, c'est des radios commerciales, mais qui sont affiliées à des réseaux nationaux, c'est-à-dire qu'ils ont des programmes locaux qu'ils doivent respecter, je me rappelle bien 3 heures par jour, et le reste, c'est la diffusion d'un programme national. Les catégories D, c'est les nationales commerciales, on les connaît tous, et elles sont le droit de diffusion sur l'ensemble de la France, avec un maximum de population desservie. Il faudrait reprendre la loi complètement pour vraiment le remettre en ligne. Et puis les catégories E, c'est les généralistes. Les généralistes, c'est pas commercial musical, mais c'est tout type. Donc c'est RTL, Europe 1 et RMC.
Il y en a 3. Sur radio, je crois.
Sur radio maintenant. Ouais.
Et alors, pour avoir le droit d'émettre, il faut respecter des prérequis particuliers. Comment ça se passe ?
Un dossier de candidature sur une fréquence, sur un MUX. Et le CSA, sur dossier, étudie pour pouvoir faire... La loi oblige le CSA à faire des paysages radiophoniques qui sont équilibrés, avec une certaine quantité de radio de chaque catégorie, A, B, C, D, E, que ça puisse avoir des radios qui répondent à des attentes des auditeurs potentiels. Donc on ne peut pas mettre que des radios pour des gens de plus de 60 ans, on ne peut pas mettre que des radios pour les jeunes de 20 ans. Donc c'est un mix complet de l'ensemble des radios, et c'est ce qui amène des paysages radiophoniques en France qui sont très divers, mais qui s'adresse à l'ensemble des auditeurs potentiels.
Alors, on parle du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui depuis le 1er janvier 2022 L'Arcom. A été jumelé avec Adopi pour devenir l'Arcom. Quelles évolutions attendre avec cette fusion ? Quel est l'objectif de cette fusion ? Parce qu'on ajoute un aspect, on va dire, Internet avec cette fusion. Alors, quel est l'objectif de cette fusion ?
Eh ben, je pense que c'est réunir sous une même entité l'ensemble des contrôles sur...
Ça veut dire, parce que les radios vont devenir...
Autorité de régulation de la communication. C'est-à-dire qu'il faut arriver aujourd'hui à ce que le CSA s'occupe de gérer le contenu des radios, mais pas l'Internet. Adopi s'occupait un petit peu des deux. Voilà. Et surtout, il faut maintenant que... le contenu et le contenant se retrouvent sous une même autorité.
Alors, intéressons-nous maintenant au futur de la radio. On l'évoque depuis tout à l'heure, le DAB+. Fabien, vous êtes trésorier du studio B-Prod qui développe une activité autour de la radio. Et bientôt, nous pourrons écouter avec Station B une nouvelle radio associative cannaise qui devrait débuter ses émissions numériques d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est qu'une radio numérique, une émission numérique ?
Une émission numérique, c'est tout simplement, par exemple, Radio Phoenix qui est sur 92.7 en FM. On va la retrouver en numérique. Sur un récepteur numérique, voilà, avec un choix de plusieurs radios. Donc sur Caen, enfin à Caen, il y en aura 26 qui seront divisés, comme on le disait tout à l'heure, en deux ensembles. Donc on appelle des MUX. Il va y avoir un multiplex qu'on appelle étendu, donc qui est étendu, on va dire, à la zone plus ou moins de la région. Donc c'est à peu près à la limite de la basse Normandie, si je me rappelle bien, grosso modo.
Oh. En gros, la couverture de l'émetteur qui c'est sera ça, située au site historique. Quoi, hein,
c'est ça, oui. Ouais.
Et puis gros, sur 3 départements.
Oui, ouais. Et puis un ensemble qu'on appelle local. Donc là, il va être vraiment centré sur Caen, qui apportera 13 radios, dont la moitié d'associatives, un peu moins de la moitié d'associatives, et puis le reste d'autres catégories.
Et quel est l'objectif, du coup, de ce multiplex, de réunir les radios ?
Alors, réunir plusieurs radios dans un multiplex, déjà, c'est un intérêt économique, parce que, du coup, ça permet aussi à 13 radios d'investir dans un même site de diffusion, de couvrir un bassin de population de manière égale aussi. Ça diminue les coûts, aussi bien de manière énergétique que de coûts de structure, on va dire. Comme on le disait tout à l'heure en hors antenne, on ne va plus pouvoir, malheureusement, heureusement et malheureusement, mettre soi-même en numérique depuis, par exemple, les studios ici.
C'est-à-dire qu'il faudra s'accorder avec les 13 personnes qui vont...
Alors ça, c'est aussi une entente qui est faite via l'ARCOM maintenant, hein, qui pousse à ça, qui pousse au regroupement. Tout simplement pour éviter que si par exemple il y a une radio qui malheureusement est amenée à disparaître ou il lui arrive quelque chose économiquement qui ne le fait pas, voilà, ça permet aussi de pouvoir s'entraider aussi dans la gestion du MUX.
Et alors avec l'arrivée du DAB+, est-ce que nous allons être amenés à changer de récepteur ?
Alors oui, Forcément, il faut savoir que maintenant, les nouvelles, par exemple, dans le parc automobile, les nouvelles voitures qui sont vendues depuis 2020, si je m'abuse, sont équipées forcément d'un récepteur DAB+. Alors les gens ne savent peut-être pas quand ils achètent leur voiture, mais d'office, il y a un récepteur DAB+ dedans. Maintenant aussi, ce qu'on arrive à trouver, quand on se balade dans les grandes surfaces ou les magasins d'électronique ou de sono, on arrive à de plus en plus trouver de récepteurs qui sont à la fois compatibles DAB+, FM, voire même Internet pour certains. Voilà, pour une trentaine d'euros, je dirais, à partir de 30 euros, on peut trouver quand même quelque chose de bien et puis pouvoir recevoir de la DAB+.
Et alors concrètement, pour l'auditeur, est-ce que ça va lui changer quelque chose à sa vie? Il va devoir, par exemple, changer de radio
Alors, il va pouvoir découvrir de nouvelles radios qu'ils ne connaissaient pas avant, parce que sur les 26 qui sont autorisées à Caen, il y en a qui ne sont pas dans le paysage actuel FM. Et ça va aussi, surtout, la qualité de son aussi va changer. C'est-à-dire que si, par exemple, on s'éloigne un petit peu trop de l'émetteur, qu'on n'est plus trop dans la zone normalement desservie, on va dire, le son commence à se dégrader, on commence à avoir aussi peut-être des perturbations qui viennent d'autres émetteurs, hein, qui ne sont pas forcément dans la zone desservie. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en numérique, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si on capte à peu près bien, on est en dessous, on va dire, par exemple, légèrement au-dessus du seuil admis par l'autoradio de réception, et ben on va capter comme si on était à côté de l'émetteur. C'est-à-dire la même qualité de son. C'est du numérique, ça va être de la stéréo. Tout le monde va être à la même enseigne. Hein. C'était régi aussi par l'ARCOM. Tout le monde va partager la même part du gâteau. Les 13 auront la même, le même débit, on va dire, en numérique pour émettre leur son.
Et chacun aura toujours sa fréquence.
Alors, ça sera, en numérique, c'est différent, parce que c'est une fréquence pour 13 radios. Voilà, c'est la fréquence du MUX, en fait.
Très bien. Et alors, avec l'émergence des podcasts et du web, est-ce que ça va causer un problème, on va dire, à la bande passante Internet?
Alors là, c'est deux choses différentes, parce que le DAB+, ça reste du herdien, comme la FM, hein, ça reste toujours du herdien. Après, Internet, c'est deux choses différentes. Moi, je pense que c'est deux choses qui vont venir en complément. C'est-à-dire que le contenu additionnel qu'on pourra trouver d'une radio, le podcast, les infos, etc. Ça pourrait rester sur Internet aussi. Pareil, le direct via Internet, ça marche aussi. Après, en herdien, ce qu'on va retrouver en DAB, ça va être le contenu, comme on l'entend comme aujourd'hui en FM, mais on pourra aussi retrouver des données additionnelles, comme des images, du texte, je sais pas, de la prévision météo, la tête des animateurs sur votre récepteur, ce genre de choses.
Et alors, Michel, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la radio restera toujours la radio ou elle va être amenée à changer au fil des années?
Elle a déjà beaucoup changé.
Ouais, c'est
par rapport à la radio de grand-papa, je crois qu'elle a pas mal changé. Mais non, je crois que le média radio restera ce qu'il est. C'est un des préférés des Français, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais non, il y aura toujours des gens qui parleront dans un micro, il y aura toujours des gens qui passeront de la musique. Voilà, la radio en elle-même, non, c'est la manière de la recevoir qui
ouais,
change.
Ça va changer, ouais.
Il y avait les grandes ondes dans les années 60, il y a eu la FM dans les années 80, il y a le DAB aujourd'hui, mais en même temps que le DAB, il y a aussi la réception par Internet, par le téléphone, tout simplement, la 5G, la 4G, la 5G. C'est des moyens complémentaires pour continuer, pour avoir une réception continuelle. Aujourd'hui, si on veut écouter une bonne radio américaine ici à Caen, c'est impossible. Et le DAB ne le permettra pas.
Non,
mais aujourd'hui, si vous voulez écouter une radio américaine que vous connaissez parce que vous avez été aux États-Unis, vous la mettez sur votre téléphone et vous pouvez l'écouter. Je crois que la radio ne change pas. C'est le moyen de l'écouter qui change. Et la qualité a été largement améliorée du passage de l'AM à la FM. Elle sera encore meilleure avec le DAB. En 5G, on parlera pas de la qualité, mais au moins on peut écouter. Voilà, je crois que c'est les gens qui ont inventé la radio un jour, c'était pour que les gens se retrouvent à écouter quelque chose tous en commun et pouvoir échanger quelque chose. Voilà, à mon avis.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec le passage au DAB, Radio Phoenix sera toujours présente sur les ondes. Eh bien, merci Michel Vernouillet et Fabien Cuny d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix et d'être venus nous parler du fonctionnement de la radio.
Merci à vous.
Voici l'agenda scientifique de la semaine.
Au revoir.
Du 4 février au 15 mars, l'Université de Caen mène une consultation citoyenne sur les enjeux du développement de la télémédecine en Normandie. L'objectif, accompagner la politique d'aménagement du territoire normand, éclairer les acteurs locaux sur les leviers et les freins à la progression de la télémédecine et identifier les enjeux. Alors si vous souhaitez participer à cette consultation, rendez-vous sur le site internet espace-éthique-normandie.fr, rubrique « Nos sondages ». Le concours des têtes chercheuses est lancé. Depuis 13 ans, ce concours encourage les démarches innovantes en matière de médiation scientifique. Il décerne le prix Musée Schlumberger avec une équipe et à la clé une dotation de 10 000 euros pour faciliter la réalisation d'un dispositif illustrant des méthodes, des outils, des innovations ou encore des techniques de toute discipline scientifique. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 11 mars. Alors si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site du Dôme. Du 11 au 13 février, le Centre chorégraphique national de Caen organise le forum « Créer les conditions de santé ». Au programme, 3 jours de rencontres, tables rondes, ateliers, conférences, projections et présence d'experts. L'objectif est de partager des savoirs, des expertises et des expériences pour étudier la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Pour réserver, rendez-vous sur le site internet ccncn.eu.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur le fonctionnement de la radio, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les podcasts des précédentes émissions sur phoenix.fm. À 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne. Et nous souhaitons un bon rétablissement à Imran, le co-animateur qui sera de retour la semaine prochaine. Merci à Alan qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.